Alors, recontextualisation dans la thèse. Cette thèse s'articule jusqu'à maintenant en quatre parties, avec une première partie vraiment sur le côté agricole, avec l'évolution de tout ce qui est culture et les transformations et pratiques. Donc ça, je n'en parlerai pas ici. Une deuxième partie plus économique avec les crises de subsistance, prix et commerce, fiscalité et redevances. Une troisième partie qui sera sur les techniques, sur la meunerie avec les banalités, et puis enfin la dernière partie sur une histoire culturelle avec l'alimentation, bien sûr, au sens de la consommation, des pratiques, mais aussi les représentations, que ce soit pour le folklore, la médecine, les croyances et autres. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais aborder que ces deux aspects de ma thèse. Alors, très rapidement, quelques éléments pour fonder le propos. Qu'est-ce que le sarrasin? Alors, bon, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est le sarrasin. Donc, c'est une plante annuelle qu'on doit replanter à chaque fois, qui fait à peu près entre 80 et 110 cm de haut, de couleur blanche puis un petit peu rosée. Au fur et à mesure, vous voyez que les tiges vont devenir rouges, comme ça, avec un fruit qu'on appelle dans nos sources un grain, mais qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'akène. Ceci n'est pas une céréale. Je tiens à insister parce que dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages, hein, et même d'historiens réputés, je ne donnerai pas de nom, mais à chaque fois, on trouve le mot céréale avec sarrasin avant ou après. Ce n'est pas forcément une erreur directe de leur part, mais c'est vrai que dans nos sources, on parle de grains, on parle des blés jusqu'au 19e siècle. Donc, on a tendance à dire bah, les céréales et à mettre le sarrasin dedans. Or, le sarrasin n'est pas du tout une céréale. Dans la classification, ici, d'un côté, on aura le dicotylédone avec deux cotylédons et les graminées qui sont mono. Il faut attendre réellement les classifications de Linné et surtout, donc 18e et surtout Moench vers le 19e, pour avoir cette notion-là en tête. Les contemporains, comme je l'ai dit, ne l'ont pas. Et tout ça, ce sont des grains. Ce sont des grains qu'on mange. Ce sont des grains qu'on. Là, c'est un grain qu'on peut mettre aussi en pain. Alors, il n'est pas panifiable. Hein, le sarrasin n'est pas panifiable. Il n'a pas de gluten. Mais ce n'est pas le seul. Après tout, il y a aussi des céréales. Hein, l'avoine, le millet, le riz et le maïs ne sont pas non plus panifiables. Alors, après tout, où est la différence pour les gens de l'époque? Et puis la notion même de panification, le procédé. Alors, on sait que ça existe, mais l'explication scientifique de la panification, elle s'explique que vers la fin du 18e et surtout le 19e. Avant, alors ici je ne vais pas en parler, mais c'était le propos de la quatrième partie de ma thèse, un article à paraître bientôt. Bah, par exemple, on vous explique que pour faire du bon pain de sarrasin, la bonne recette, c'est de mettre beaucoup de levain. Sauf que le levain, c'est quoi au départ? C'est du froment. Donc avec du gluten, donc panifiable. Donc il vous dit, mettez un levain jeune et en quantité suffisante et vous aurez un pain de sarrasin qui va monter. Bah oui, parce qu'en fait, on met du froment et que le procédé de panification et de levée se fait sur le froment et non pas sur le sarrasin. On peut recontextualiser aussi au niveau des nutritions. Le sarrasin n'apporte pas beaucoup plus ni beaucoup moins que les céréales. Ici, attention, parce que j'ai mis la pomme de terre à la châtaigne directement. Si on la met en panification, si on fait, alors pour la pomme de terre, je crois que c'est la dissication que ça s'appelle. Pour la châtaigne, je ne sais pas si ça porte le même nom, mais à partir du moment où on les met en farine, l'apport calorique est supplémentaire puisque la densité est autre, mais on reste toujours voilà, dans les mêmes apports. Alors on a des apports différents après, protéines, lipides et glucides, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention dans la lecture de nos sources entre des gens qui vont vous dire. Ah oui, mais le sarrasin, c'est pas nourrissant pour les pauvres. C'est pour ça que le subdélégué va dire, envoyez-nous plus à manger parce que les pauvres ne mangent que du sarrasin qui nourrit pas. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire l'hégémonie du sarrasin et vont vous dire, c'est la plante qui nourrit le mieux et ainsi de suite. Donc, pas toujours facile de s'y retrouver dans nos sources d'historiens. Alors, le cycle. Je vais passer rapidement, mais je reviendrai dessus, ça a son importance. Le sarrasin se plante vers juin et se récolte septembre, octobre. Se sème, oui, merci. J'ai mis semaille d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout le même cycle que ce soit les grains d'hiver ou de printemps. Et ça va avoir son importance après au niveau des phénomènes météorologiques. Alors, d'où vient le sarrasin? Très simplement, donc, dans cette région, entre la Sibérie et la Chine, entre la Mongolie et le Yunnan. Au fur et à mesure, on va avoir une importation vers le XIIIe siècle sur l'Europe de l'Est. On le trouve vers l'Allemagne au XIVe siècle, peut-être un petit peu avant. C'est les dernières données qu'on peut retrouver dans l'article de Michel Massier. Et puis au XVe siècle, la première mention, je le rappelle, est normande, 1460, Cartier d'Avranches. Première mention de sarrasin, il faudra attendre, je crois, 1492 pour la Bretagne. Mais il arrive bien par là. Alors, aucune source, aucune trace, aucune certitude, mais il est fort probable que ça arrive, comme c'est une voie maritime, par des échanges, peut-être avec les pays hanséatiques. Alors là, ce sont des spéculations que Fernand Braudel avait fait déjà avant moi, d'ailleurs, mais on n'a aucune source là-dessus. Alors, en France, ici, on a une carte réalisée à partir des données statistiques qui sont au ministère ici même. J'ai pris les terres en blavet, j'ai fait une moyenne sur tout le 19e pour essayer de faire émerger des zones. Donc, trois zones. La première, la zone principale qui est ma zone d'étude ici, donc Bretagne, essentiellement Bretagne-Normandie, auquel on peut rajouter la Mayenne, un tout petit peu en Sarthe. Et puis Loire-Atlantique, donc Loire-Inférieure pour le 19e, et puis Maine-et-Loire un petit peu, mais ça se voit moins là. Alors, deuxième zone, ça va être dans le centre, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Cantal, et puis là, on va avoir Saône-et-Loire, Ain et Isère. Donc, ici, on a une arrivée au 15e siècle, mais ici, on a également, dès le 16e siècle, des mentions de sarrasins. Ce qui n'avait pas été mis en valeur par Michel Massier dans son article d'ailleurs. Mais là, on a des choses, peut-être une arrivée par la Suisse, par l'Allemagne, puisqu'on sait qu'il est déjà présent avant. Alors, je vais aller très rapidement pour vous dire que, en ce qui concerne le Calvados, ici, j'ai repris la carte de Gabriel Désert dans sa thèse. C'est juste pour montrer que le sarrasin se trouve surtout dans une petite partie. Du Calvados. Donc là, on a le pourcentage, ça va être surtout le bocage virois, et puis on va en trouver un peu vers Bayeux, apparemment plus pour nourrir les animaux que les personnes. Surtout la volaille, dès le 17e, on a des mentions de la volaille de Bayeux nourrie au sarrasin. Alors, si on prend l'Orne, c'est la même chose, simplement c'est surtout le Domfronté avec le pays de Brioude. Où il va y avoir, c'est tout l'ouest, c'est le bocage en fait. On va revenir sur le bocage. Donc voilà. Les sols. Alors, il est cultivé, on l'a vu, surtout dans ces zones-là, et ainsi de suite. Et puis après, vers la Bretagne, si on prend ici. Voilà. Ce sont des sols surtout granitiques, avec quelques grès, des schistes. Ce sont les terres pauvres dans nos sources. On appelle ça les terres pauvres. Ce n'est pas que le sarrasin pousse mieux dans les terres pauvres que dans les terres riches. Hein. C'est simplement que dans ces terres pauvres, le froment ne donne pas forcément de rendement suffisant, qu'on n'arrive pas à cultiver réellement du froment. Donc, il est plus rentable de mettre un sarrasin avec un rendement important qu'un froment avec un petit rendement. Donc, ce qui va faire que le sarrasin va vite s'implanter dans ces terres dites pauvres, qui resteront pauvres jusqu'à l'arrivée de la chaux vers les années 1850, enfin l'implantation massive de la chaux. Déjà en 1589, dans l'agriculture et la maison rustique, Charles-Étienne nous dit « On le doit semer en toute terre, d'autant qu'il ne refuse aucun guéret, fût-il sablonneux ou quelque autre qualité. » Et en 1713, le nouveau théâtre d'agriculture, Louis Liget, « Le blé sarrasin est un grain assez commun de France. » Il vient bien dans toutes sortes de terres, maigres, grasses, sablonneuses ou pierreuses, il n'importe. On va rentrer dans le cœur du problème. Point de départ de cette problématique sur les crises de subsistance. Un article, donc, ce qui est même le point de départ un petit peu de la thèse, après avoir travaillé sur les meules. L'article de Michel Massier en 1998, dans une très grande revue internationale, que vous connaissez tous, Histoire et Société Rurale. Donc Michel Nassier disait donc celles-ci nous amèneront à fonder l'hypothèse que dans l'ouest armoricain l'insertion du blé noir dans la rotation culturelle provoqua une expansion céréalière qui a favorisé la croissance démographique due du 16e. Effectivement, cette phrase et l'article en lui-même, où là on a une vision structurelle du rôle du sarrasin dans la démographie, moi m'a amené à une question plus conjoncturelle, qui est celle de l'étude des crises de subsistance. C'est-à-dire que si ça a aidé dans la démographie, 16e, est-ce que ça a continué après? Et puis surtout, est-ce que c'est simplement structurel ou quand il y a eu des grosses crises, est-ce que le sarrasin a permis de faire un petit peu tampon, d'améliorer le quotidien des gens? Au départ, Michel Nassier se base sur les travaux de Dupaquier, donc Statistiques démographiques du bassin parisien 1636-1720, où on voit bien dès le départ ici qu'il y a une densité démographique plus importante déjà sur le littoral, de prime abord, que dans les terres. Mais si on zoome ici, par exemple pour la Normandie, on va voir qu'il y a des zones plus fortes, Domfront, Mortain, Le Virois, et ainsi de suite. Bon, il va y avoir des zones un petit peu plus fortement densitées. Non, avec des densités plus, un petit peu plus importantes, pardon. Donc, la question qu'on peut se poser, en faisant très attention, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu jouer un rôle, ou est-ce que c'est comme ça, aléatoire. Alors, apport alimentaire des ressources du littoral, climat différent, alors pas à cette échelle, mais à l'échelle précédente. Une gestion administrative locale pour en matière de subsistance, peut-être qui serait meilleure. Hein. Une agriculture de meilleure qualité dans ces endroits-là. Bref, toujours un jeu de questions entre un déterminisme physique et puis la question du possibilisme avec certainement une réponse au milieu, toujours la réponse normande, hein, sans vouloir... Voilà. Je vais continuer. Voilà. Donc, les trois zones où l'on trouve le plus de sarrasins vont être ces trois zones-là, le Domfronté, le Mortonnet et le Virois, sachant que dans la Manche, alors à quelques exceptions près, on le trouve quand même un petit peu partout. Alors après, avec des densités plus ou moins importantes, et ainsi de suite. On va le voir au fur et à mesure. Alors, problématique. Donc, cette hypothèse de départ est-elle valide? C'est ce qu'on va essayer de se poser comme question. Si oui, dans quelle proportion? Alors, le rôle d'autres facteurs complémentaires, c'est-à-dire que il n'y a pas que le sarrasin en Normandie quand même, il y a d'autres choses. Est-ce que d'autres choses ont joué ce rôle-là? Mais surtout, est-ce que le sarrasin plus d'autres facteurs, c'est donc l'ensemble de ces facteurs, ont pu jouer un rôle? Et puis, est-ce que c'est simplement pour les crises conjoncturelles ou est-ce que c'est un fait structurel, hein, dans la longue durée même? Et si on parle de longue durée, il y a des types de crises. Est-ce que c'est vrai pour tous les types de crises? Et surtout, les crises ne sont pas les mêmes, que ce soit au 17e, 18e et surtout au 19e siècle. Voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser. Alors, pour commencer, une approche plutôt qualitative, le sarrasin dans les sources textuelles. Mais avant tout, attention parce qu'il faut bien comprendre. Comme je fais une thèse sur le sarrasin, j'ai retenu ici que les textes qui parlent du sarrasin. Mais lors de mes recherches, j'ai de nombreux textes qui vont parler de l'apport de riz à travers les ports de Caen, Cherbourg et autres, l'importation de seigle, d'orge et même de froment. Donc ce n'est pas simplement la seule denrée qui va venir atténuer. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête dès le départ, quand on travaille sur une chose bien précise. Alors, ici, on va remonter le temps. Donc, j'avais dit que je parlerais très peu du 16e, mais voici une mention de l'évêque du Mans qui vient se plaindre au roi pour une famine où il dit qu'il nourrit le peuple avec un pain de gland et de sarrasin. Nourriture de subsistance, donc, ici. Un autre exemple, mais au 17e, et là, on en a beaucoup plus avec les subdélégués et les intendants. Ici, l'intendant de Caen qui parle au contrôleur général des finances. La généralité est soulagée grâce au blé noir. Donc là encore, le blé noir vient aider. En 1709, dans l'ouvrage de Marcel Lachiver sur les années de misère, il nous parle effectivement de l'orge, mais encore faut-il en remplacement des terres qui étaient vouées normalement au froment. Hein, il parle du miracle de l'orge. Encore faut-il avoir de l'orge, ce qui n'est pas le cas toujours et partout. Donc ici, on va avoir l'ordonnance, va parler aussi du sarrasin pour la Normandie. Et puis, un autre exemple, 18e, Nous avons même un exemple où un laboureur a dû ensemencer 3 fois son champ pour obtenir une récolte de sarrasin. Le blé, l'orge ayant été successivement détruites. Donc ça prouve encore une fois ce que je disais sur le froment, l'orge et le sarrasin. Et puis rappelez-vous du cycle, je vais revenir dessus, mais de l'importance aussi de ce cycle. Donc voilà, plusieurs exemples qui montrent bien que quand on a une mauvaise récolte de lin, on a encore une variable d'ajustement grâce au sarrasin qui arrive un petit peu plus tardivement pour nourrir. Alors, on va faire un petit zoom sur quelques crises. Une crise qui a lieu en 1739 ici dans le Domfronté qui a donné effectivement beaucoup de documentation et qui est assez intéressante pour moi. Ici, c'est une crise classique d'Ancien Régime, un problème météorologique. Les céréales ont été totalement détruites et on veut profiter de la saison pour replanter du sarrasin. Problème, une partie des gens sont trop pauvres, ils n'ont pas les semences, ils ne peuvent pas replanter. Donc là, on a l'intendant et le subdélégué qui vont demander au curé des paroisses de faire une liste de l'ensemble des personnes par paroisse qui ont besoin de semences pour pouvoir compter. Et là, on a les noms, on a le nombre de journaux qui veulent planter, et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'informations assez intéressantes. Ce qui est important aussi, c'est de voir, le sarrasin va aider, mais on a aussi, et on en parlait pas plus tard que lundi, des politiques publiques qui est importante. On a la mise en place, et on va le voir tout au fur et à mesure, de politiques publiques, entre guillemets, pour l'Ancien Régime, c'est toujours difficile de parler de politique publique, mais une intervention des pouvoirs locaux, voire, on va le voir un peu après, centraux, et qui vont introduire dans leur logique le sarrasin dans ces politiques. Donc ici, à côté de ça, on va aussi enlever les droits de péage pour les différents blés, pas simplement le sarrasin, et puis on va suspendre les prélèvements classiques sur la région qui a été touchée. Autre crise, alors, 1794 dans l'Ouest. Ici, on a encore plus de documents. Et là, ça va être très intéressant pour ma thèse. Il faut comprendre le contexte. Donc, après l'arrivée du Conseil exécutif provisoire en 1792, on va créer ce qu'on appelle la 5e division qui va être chargée du commerce des subsistances. Alors, elle va changer 2 fois de nom. En 93, ça sera une commission centrale des subsistances, puis un remaniement en 1794, où là, on va trouver le nom de la fameuse commission du commerce et des approvisionnements. Et cette commission va écrire énormément. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de documentation entre les commissaires qui sont dans les différents départements et la commission en question. Et cette commission, elle a à cœur de ne pas faire les mêmes erreurs que la monarchie. Parce que les gens, on a eu la révolution il n'y a encore pas si longtemps que ça, et les gens se sont en partie révoltés aussi à cause de crises de subsistance ou de ressentis de crises de subsistance. Donc, on va commencer à mettre des décrets, des lois et ainsi de suite tout autour des subsistances et on va augmenter les politiques publiques. Ici, en août 1793, un décret ordonne le recensement général des grains. Il va falloir attendre le 9 novembre 1793 pour voir un rappel de la commission. On voit que les choses ne se font pas naturellement. C'est nouveau, cette administration obligée de faire des rappels. Et au final, ça sera qu'en février 1794, pour prendre l'exemple de Domfront, du district de Domfront, qui vont réellement envoyer le recensement. Alors, la fin du 18e, c'est l'accomplissement de tout un siècle. Alors, ça veut rien dire ce que je dis là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une histoire des crises des subsistances au 18e et puis du libéralisme. On l'a déjà vu avec Stephen Kaplan le mois dernier, donc je vais passer très rapidement, mais on va avoir l'ouverture du libéralisme avec Bertin qui va reprendre les idées de Quesnay dès 1763-64. Ensuite, on va revenir, donc ça va être une libéralisation du commerce des grains. On va revenir en arrière avec Terray, mais pas bien longtemps, puisque ensuite Turgot va, dès 1774, refaire cette ouverture. Et puis, il va y avoir également, je passe très rapidement, mais tout ce qui est guerre de farine, pardon. Et on a beaucoup, beaucoup plus d'émeutes et beaucoup plus de problèmes dans les villes tout au long de cette deuxième partie du 18e. Certaines crises sont parfois plus des crises ressenties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une si mauvaise récolte. Mais comme il y a une spéculation et il y a une peur, c'est la guerre des farines, hein, c'est le complot, hein, ce que nous disait Stephen Kaplan, on va avoir une peur et très rapidement, les choses vont s'emballer. Donc ici, c'est à prendre en considération. Aussi pour les événements de 1794, on est dans cette continuité. Alors 1793, pour ce qui concerne la Normandie, on est en guerre avec l'Angleterre dès 1793 et ça va avoir aussi des répercussions en Normandie, mais également la guerre avec les Chouans qui vont venir jusqu'au siège, qui vont venir jusqu'à Avranches et Granville et réaliser des sièges. Tout ça, ça pose des problèmes et surtout, il va y avoir des réquisitions de grains et aussi des envois d'hommes. Par exemple, on a, je vous lis un passage, « La levée en masse des habitants de notre district pour aller combattre les brigands de la Vendée a encore contribué à notre appauvrissement. Plus de 20 000 hommes volèrent à Mayenne et transportèrent avec eux des subsistances pour plusieurs jours qui servirent aux besoins du reste de l'armée ou même se trouvèrent perdus. » D'autres documents montrent aussi des donations de certaines paroisses, de certaines personnes des paroisses, de gros pains de sarrasin. Là, ce sont des pains de 13 livres, 15 livres, donc c'est ce qu'on avait déjà vu le mois dernier, des très gros pains assez durs. Donc tout ça, sans compter le problème économique avec la monnaie des assignats, la mise en place du prix maximum, on va avoir effectivement beaucoup d'émeutes, beaucoup de problèmes sur cette période-là. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, plusieurs cas de figure, en fait, ils sont là, mais je vais les matérialiser maintenant sur la carte. On fait des demandes, à chaque fois, on a des problèmes, on a des crises, on est en crise, et on fait des demandes auprès de la commission de commerce et approvisionnement. Donc ici, par exemple, on va avoir l'Orne qui va demander de l'aide, on va lui attribuer 10 000 quintaux de sarrasin en provenant de Mortain. Et là, on a toute une administration, et ça met plusieurs mois qui se met en place, où on envoie un commissaire à Mortain qui va devoir gérer sur place avec chaque district renvoie aussi un commissaire et on va avoir tout un jeu entre les commissaires, l'envoi des charrettes et ainsi de suite. C'est assez compliqué parce qu'en plus les districts n'envoient pas tout de suite les commissaires, on n'a pas tout de suite l'argent, les gens ne veulent pas donner, donc le commissaire de l'Orne fait réquisitionner l'armée pour aller chercher les grains chez les habitants dans le Mortenay et ainsi de suite. Ce qui est marrant aussi, c'est que on a des gens qui refusent de donner le sarrasin et à la place, ils disent, nous on vous donne du froment, on veut garder notre sarrasin pour le manger. Et puis on va avoir aussi le commissaire du Domfronté va récupérer le sarrasin du commissaire d'Argentan et en échange, il devra prendre le froment de l'autre commissaire. Il y a des échanges comme ça. Argentan ne veut pas vraiment de sarrasin. Les gens ne connaissent pas trop ça. Ils n'en mangent pas. Et donc, ils préfèrent du froment. Alors que Domfront, eux, ils aiment bien ça. Donc, voilà. Alors, je passe. On va avoir différentes réquisitions. On en a même entre Dole et l'Orne ou Dole et la Mayenne. Et puis, bon, il y en a aussi en Bretagne. Ici, un exemple. Donc, le département des Côtes du Nord demande à la commission, on leur dit d'aller prendre sur le district de Pontilly. Ils vont réquisitionner dans le magasin ici, qui va renvoyer. Et puis après, on va avoir différentes étapes, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à Saint-Brieuc. Et ensuite, on va avoir une répartition dans les principales villes. Voilà un petit peu comment on se met en place. Et on a la liste de chaque personne qui demande tant de sarrasin pour replanter les terres. Là aussi, on est encore une fois dans une demande pour ensemencer, pas pour manger directement. Donc ici, on va passer au 19e siècle. La crise de 1812, elle est particulière parce que c'est la dernière crise qui serait un peu une crise d'ancien régime et qui est aussi un début de crise, on va dire, 19e. plus moderne. C'est une crise mixte. Une crise mixte. Plusieurs facteurs. Donc, on a une crise industrielle et financière. On a surtout, on le verra après dans les chiffres, le bloc plus continental qui, à mon avis, va jouer un rôle très important. On va le voir sur les quantités, sur les marchés vendus. Une mauvaise récolte tout de même en 1811 qui va amener une hausse des prix. Des débuts d'émeutes dans les villes, surtout de Caen, mais aussi ensuite, on va avoir peur que ça se propage. Même si on envoie l'armée, on va surtout mettre en place la distribution de soupes économiques qu'on appelle les soupes de Rumfort. C'est une mixture à base d'orge, de pommes de terre, de légumes, de riz, d'oignons, de beurre et autres denrées. On va faire un bilan de ce qui est distribué. Donc, on met en place dans les grandes villes surtout, dans les grandes villes, on met en place des grands fourneaux pour réaliser des soupes populaires, des soupes économiques. Bon, ça va poser un problème d'ailleurs pour les campagnes, parce qu'on ne peut pas nourrir les gens qui sont plus loin dans les campagnes. Ce sont des choses, des fourneaux qui ont lieu vraiment dans les villes. Et puis donc, il est demandé au préfet de faire des rapports avec des tableaux. On se rend compte que dans la Manche, au départ, voilà ce qu'on leur demande de réaliser en soupe. La proportion est là. Voilà ce qu'ils vont réellement distribuer sur le terrain, en soupe. Et puis on a, alors je suis désolé, on n'a pas la source, vous allez me croire sur parole. Donc dans les tableaux, on a à la fin une dernière colonne qui dit denrées de substitution. Et dans ces denrées de substitution, on va trouver du riz, du métail, et puis beaucoup de choses à base de sarrasin. Alors ça va être farine de sarrasin, pain de sarrasin, bouillie de sarrasin, et ainsi de suite. Donc j'ai calculé ici à chaque fois que le mot sarrasin revient dans le pain, où il n'y a pas que du sarrasin, il peut y avoir aussi ces pains mélangés, donc sarrasin et orge, sarrasin et riz, ou simplement sarrasin. Et on se rend compte que la proportion de denrées de substitution avec, prenant en compte le sarrasin, est supérieure au nombre de soupes distribuées, qui était en fait le système mis en place par l'Empire à ce moment-là. Alors, et ici, bon, du riz et du métal directement. Ça s'explique, les préfets le disent bien, bah parce que les légumes, ils ne les ont pas en cette saison. Il n'y a pas, la soupe de Rumfort, elle se fait avec des légumes et ils n'ont pas ces légumes ou alors ça coûte très cher. Donc, ils vont utiliser ce qu'ils ont sur place pour atténuer cette crise, pour nourrir les gens. Donc, le sarrasin. En 1918, ici, le gouvernement va accepter que les autorités locales fassent des réquisitions de sarrasin dans les moulins et les minoteries de la région et on va le distribuer pour nourrir les populations qui ont des difficultés ici à se nourrir. Alors, je vous lis quelques extraits. Vous demandiez des dispositions en vue de l'utilisation de la farine de sarrasin pour la confection des galettes réservées à la consommation humaine et cela pour tenir compte des très anciens usages locaux. Donc, on est en 1918 et on garde encore une fois un fait qu'on a utilisé déjà, on l'a vu au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, que ce soit sous la royauté, sous l'Empire, et ça continue encore là, en 1918, on va faire venir du sarrasin. Alors, simplement ici, un autre passage, je vous ai proposé le 11 octobre de considérer le sarrasin comme denrée de remplacement et de délivrer aux municipalités qui, après mouture faite à leur diligence, répartiraient les farines comme il est fait actuellement pour le riz, les pâtes alimentaires et les haricots. Maintenant, on va arriver dans une deuxième partie où on va aborder une histoire plus quantitative avec un passage très rapide parce que j'ai pas beaucoup d'études pour le moment sur la démographie. Je vais me baser sur les travaux d'Erwan Nell, ici présent, qui, lors de son master, avait étudié différentes populations dans le sud Pays d'Auge, dans le pays d'Oulm et dans le Perche. Je montre que ces graphiques parce que on a la chance de pouvoir avoir une certaine documentation qui sont les recherches des autres étudiants en démographie au pôle rural. Et les recherches qui avaient été réalisées par Thomas aussi, qui est là, hein, pour en parler, et par d'autres étudiants, montrent toujours la même chose. Et puis, j'ai aussi accès maintenant aux données du cercle de généalogie de la Manche. Et donc, grâce à ça, j'ai pu faire aussi des courbes. Alors, on se rend compte, voilà, ça va être à vérifier, ça va être, encore une fois, c'est une hypothèse, il va falloir aller un petit peu plus loin, mais que dans les régions où il y a du sarrasin, les crises, là, Erwan avait essentiellement étudié la crise de 1709 et celle de 1693-94, elles sont beaucoup plus atténuées que dans les régions où on consomme essentiellement du froment, froment sec ou froment orge, type le Perche ou le sud Pays d'Auge. Voilà. Donc là aussi, on peut... alors, pour 1709, on a beaucoup plus d'éléments qui permet de parler du rôle du sarrasin. Que ce soit au niveau des inventaires après l'essai, où on va pouvoir voir ce qui reste au niveau des grains, où là, effectivement, c'était Jérémy Le Bellego qui avait aussi travaillé là-dessus, avait montré qu'on avait beaucoup plus de sarrasin que de froment. Et puis, on a pour le Don Fronté, une autre source que je n'ai pas encore exploitée, qui est le recensement des grains en 1709. Et je l'ai retrouvé pour le Don Fronté et pour le Finistère. Et là aussi, on voit la présence assez forte du sarrasin. Le sarrasin et l'économie. Alors ici, on va s'intéresser surtout au mercurial, au prix. Si l'étude, jusqu'à maintenant, si l'étude de la fluctuation des prix du froment a été un révélateur pour l'économie, d'un point de vue national ou régional, on peut... L'idée ici, c'est de se poser la question, qu'en est-il du sarrasin? Est-il révélateur de quelque chose? Alors, pour le sarrasin, le problème, c'est que c'est une denrée qui est vraiment localisée. Il ne rentre pas dans un système de commerce régional, éventuellement dans un système de commerce beaucoup plus local. Encore faut-il le prouver. Alors, il est cultivé simplement dans certaines régions, il ne s'exporte pas, il ne se vend que localement, et dans des proportions modestes au regard de la population locale. Il est donc, s'il est révélateur de quelque chose, il sera donc révélateur de quelque chose qui sera beaucoup plus localisé et détaillé. Ce qui a été fait dans les travaux d'Ernest Labrousse, pour notamment esquisse du mouvement des prix et revenu en France au XVIIIe siècle, mais également par d'autres historiens qui travaillent sur l'histoire économique, ça a toujours été de voir des cycles de longue durée, moyenne ou courte, et ça a toujours été de comprendre une économie plutôt globale. Est-ce que Labrousse va mettre en place différents systèmes, il va baser sur des indices 100, il va surtout faire des moyennes de différents marchés. Et il le dit lui-même, si je m'intéresse simplement au marché, eh ben, ça va avoir un effet. Il va y avoir un effet, c'est que si jamais il y a un problème sur un marché, simplement un arbre qui tombe sur une voie de transport, si on a une baisse d'approvisionnement, s'il se passe quelque chose sur un marché, ça va venir heurter, impacter une vision d'une économie plus régionale. Et donc, à chaque fois, on a toujours travaillé jusqu'à maintenant sur des moyennes de prix. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'inverse, c'est de prendre chaque marché, chaque mercurial, et justement d'aller voir le fait discordant, la petite chose qui va venir, le petit grain de sable dans l'engrenage. Alors ici, si on prend le prix du sarrasin et du froment à Coutances au XVIIIe siècle, dans un premier temps, on peut voir, on se dit que les courbes sont... assez proches et qu'elles se suivent, il n'y a pas trop de problèmes. Et on va aller vers les formulations de Goubert qui nous dit que les courbes des céréales secondaires sont strictement parallèles au froment. Alors, on n'est pas dans la même région, hein, entre le Beauvaisis et la Manche. D'autant plus que si on regarde la courbe de tendance de prévision linéaire, pareil, elles sont plus ou moins parallèles. Et puis, si on regarde un petit peu plus près, simplement, eh ben on se rend compte qu'il y a des années avec des oppositions. Donc, on a des courbes qui sont divergentes. Soit ça augmente sur le froment et ça baisse sur le sarrasin, soit c'est l'inverse, jusqu'à se retrouver ici sur le même prix, par exemple. Moi, l'idée, c'était, à partir de ces mercuriales, d'essayer de trouver des années intéressantes et à confronter avec une documentation plus qualitative. Essayer de voir ce qui se passe sur ces années qui sont particulières. On s'est posé la question de la corrélation sur les différentes mercuriales entre le sarrasin et le froment et de la comparer entre seigle et froment, orge et froment. Et on se rend compte à chaque fois, alors les corrélations, il ne faut pas se leurrer, sont toutes très hautes. Ça, c'est sûr. Mais à chaque fois, ici 18e, on le verra le 19e aussi, la corrélation la plus basse se trouve sur le sarrasin. Donc, le sarrasin a une petite part d'indépendance. Elle est petite, j'en ai bien conscience, mais elle est là. Et c'est ça, c'est sur cette petite part d'indépendance et sur ce petit fait que je vais m'intéresser. Alors, ici, on a repris les prix, sauf qu'on les a mis en augmentation, on les a mis en pourcentage, augmentation d'une année sur l'autre, pour ne pas avoir l'influence de la courbe qui augmente avec le prix au fur et à mesure. Bon. Ici, on met en avant les variations entre l'amplitude de variation entre sarrasin en vert et froment ici en violet. Voilà les années où il y a divergence. D'accord ? Alors, donc ces années-là, on va les prendre et on va les mettre de côté pour s'y intéresser après. Ici, si on prend ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire les années où il y a une amplitude supérieure à 35% entre les variations du sarrasin et celles du froment. Alors là, ça ne veut pas dire opposées. Elles sont dans le même sens, mais il y a quand même une variation qui est très grande. Encore une fois, c'était de trouver aussi des années où il pouvait se passer quelque chose. Alors, voilà, hop. Simplement, ce qu'on peut voir aussi, ici, oups, pardon, c'est que par trois fois, sur ces fortes variations d'amplitude, on retrouve deux années consécutives, une sorte de rattrapage. Donc, au final, ce qui va m'intéresser sur ce laboratoire, hein, pour moi, puisque je suis toujours en cours de thèse, c'est de s'intéresser à la fois sur les fortes variations, à la fois les variations qui sont opposées, et puis également les fortes variations, peut-être de voir ici sur les deux années consécutives. Essayer de déterminer ce qui se passe ici, et il va falloir le comparer aussi avec d'autres mercuriales. Si on prend le 19e, parce que ça c'était le 18e, après tout, est-ce qu'il se passe la même chose au 19e siècle? Alors on a aussi des années avec des variations opposées. Et puis si on regarde ici, on se dit, bah, les courbes sont pas parallèles, effectivement la courbe du froment a tendance à monter un petit peu. Mais attention, là on a un biais dans la source d'entrée, c'est que les prix de Coutances ont été relevés entre 1802 et 1885 seulement. Et ça, ça a une importance parce que quand on prend les données pour le bocage, par exemple, là, on voit bien ce qui se passe après. On a une chute des prix. Maintenant, on reprend les mêmes courbes et on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose entre là et là. Donc là, c'est aussi se rendre compte de l'importance de ces dernières années. C'est dû notamment à l'ouverture internationale, on va dire, des marchés, à l'importation de grains de l'étranger qui va impacter le prix, notamment du froment. On avait discuté avec monsieur sur ça. L'importation du froment va faire que moins cher va faire chuter les prix. Alors ici, on va retrouver la même chose. Je vais avancer parce que le temps m'est compté. Simplement, pour le 19e, encore une fois, on va se rendre compte que le coefficient corrélation est beaucoup plus proche, est beaucoup plus élevé à chaque fois entre froment et sarrasin que les autres. Non, est beaucoup plus bas, pardon. Excusez-moi, est beaucoup plus bas entre le froment et sarrasin que les autres, d'où ça part aussi d'indépendant. Par rapport à toutes ces courbes, ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant ici, c'est de se poser la question aussi du calcul de coefficient de variation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est de regarder effectivement la variation dans les prix entre les différentes denrées. Quand la variation est importante, donc d'après la Brousse, d'après les travaux de la Brousse, on se rend compte que quand la variation est importante sur les céréales secondaires, ou les denrées, du coup, là, pour le sarrasin, hein, les grains secondaires, c'est révélateur de la denrée qui est la plus demandée sur un marché. Donc c'est la reprise un peu de la loi de Gregory King qui disait que l'insuffisance ou l'excès de l'offre produisent sur les marchés des variations de prix beaucoup plus importantes que les variations de volume constatées. Donc si on part du principe que ce raisonnement est juste, à chaque fois on devrait trouver effectivement en rouge la denrée la plus consommée par les masses populaires et les indigents. Donc à Domfront, ça serait le sarrasin, à Coutances, ça serait le sarrasin, à Laval, ça serait plus le seigle. Effectivement, quand on regarde les données qualitatives, il y a beaucoup moins de sarrasin à Laval. Ensuite, à Avranches, ici sur cette période-là, ça serait le sarrasin. Apparemment, à Coutances, ça serait l'orge. On va le voir après, on va vérifier tout ça. Et ainsi de suite. Alors là, c'est intéressant parce que, on va pouvoir comprendre les logiques de consommation, c'est-à-dire comment les gens se répartissent en fonction des crises sur tel type et tel type de denrées. Et si on prend une même mercuriale, comme ça, entre 1812 et 1900, on voit ici que le coefficient de variation est plus élevé sur le froment. Et si on reprend 20 ans plus tôt, c'est le sarrasin qui passe à 0,26. Et j'ai fait d'autres essais, si on enlève encore 20 ans, le sarrasin est encore plus fort. Donc, c'est ce qui se passe réellement dans le bocage du Calvados, c'est qu'au fur et à mesure, on consomme de moins en moins de sarrasin et on va consommer beaucoup plus de froment. Donc, ces calculs, à première vue, sur ces premiers essais, permettent de voir aussi les logiques de consommation sur la longue durée, comment elles évoluent, à vérifier avec d'autres mercuriales. Donc voilà, on a fait l'essai avec le sarrasin entre Coutances et Avranches, et puis comme ça, à vue d'œil sur le graphique, on se rend compte que Avranches monte beaucoup plus, a un coefficient de variation beaucoup plus élevé ici sur le sarrasin que Coutances. Et puis là, on aurait tendance à penser que c'est pour l'orge, que Coutances a un coefficient de variation plus important sur l'orge. Donc ça voudrait dire que à Avranches, on mange plus de sarrasin et à Coutances plus d'orge. D'accord. Donc voilà ce que ça donne. Effectivement, ici avec les chiffres, c'était plus parlant que sur les cours. L'orge arrive en premier. Et ici, le sarrasin et l'orge sont à égalité. Donc il y a une différence quand même entre. C'est ça qui est intéressant, c'est que en prenant deux marchés qui sont très localisés, on peut observer une différence. Si on prend l'enquête de 1866, qui est celle que j'ai le mieux dépouillée, mais on peut le voir aussi avec celle de 52, effectivement. On cultive ici plus d'orge que de sarrasin à Coutances et on cultive plus de sarrasin que d'orge à Avranches. Donc ça semble aller. Alors la question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce que par hasard l'orge coûte moins cher à Coutances qu'à Avranches et c'est pour ça qu'ils vont acheter de l'orge à Coutances, qu'ils mangent de l'orge à Coutances. Bon, il faut savoir que l'orge est normalement toujours en moyenne, hein, toujours supérieur au sarrasin. En termes de prix, on a le froment, l'orge et après le sarrasin. Mais il n'en est rien. Si on prend l'écart moyen des prix entre sarrasin et orge, ici, à Coutances, là où on mange plus d'orge, l'orge est supérieur de 0,54 centimes, alors qu'à Avranches, c'est que 0,23 centimes. Donc là, peut-être qu'on est plus devant un fait culturel qu'un fait lié directement à l'économie. Donc encore une fois, il va falloir aller plus loin dans ces recherches. Ça permet juste, là, ici, c'est encore une fois, une sorte de laboratoire qui va me permettre peut-être, grâce au mercurial, de comparer avec des données qualitatives et de mieux comprendre les logiques de consommation. Alors, pour bien comprendre tout ça, trois cas de figure, parce que j'avoue que c'est assez compliqué, on a un marché ici avec du froment, de l'orge et du sarrasin. On a une baisse de l'offre de froment. Les clients les gens qui achètent habituellement du froment vont subir une hausse du prix. C'est le jeu de l'offre et de la demande, classique. D'accord. Si jamais on avait une baisse beaucoup plus forte, le mécanisme qui va se mettre en place, des gens qui pouvaient faire appel à de l'autoconsommation, et pas de l'autosuffisance, simplement de l'autoconsommation, n'ont plus effectivement le froment qu'ils pouvaient tirer de leur terre. Donc ils vont aller acheter le froment ici sur le marché on a une augmentation de la demande par rapport à l'offre qui a baissé, le prix augmente encore plus. Une partie des gens qui achètent du froment vont se déclasser, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus pouvoir acheter du froment, ils vont devoir acheter en dessous. Alors, ce que nous explique Labrousse, lui, il dit qu'ils vont se déclasser directement sur le seigle et très rarement, ils vont aller manger des céréales secondaires ou du sarrasin. Simplement, ceux qui mangent du froment vont aller sur du métail s'il y en a ou sur du seigle, mais on ne descend jamais aussi bas. Le problème, c'est que dans nos régions, il y a très peu de seigle et quasiment pas de métail. Donc, il y a peut-être un déclassement sur les premières quantités dans les marchés, mais on va vite arriver à saturation. Donc, on va aller sur l'orge et ensuite également l'orge ou le sarrasin, soit ensemble, soit là, ça dépend des régions ou ce qu'on préfère manger ou ce qui est le moins cher. Donc, on a une hausse orge et sarrasin en même temps. La hausse au départ du froment va impacter le reste. Les gens qui habituellement mangent du sarrasin vont voir le prix augmenter. Ils vont se dire, on va vite acheter avant que ça soit trop cher. Augmentation de la demande sur le sarrasin et donc sur le sarrasin ou l'orge, et on va avoir une augmentation. Donc là, simplement, c'est ce qu'on a vu sur les courbes avant, une augmentation du froment importante dans les courbes, on l'a vu, a tendance à aspirer également le prix de toute denrée qui lui est inférieur. Voilà. Et quand il y a une opposition, ce qu'on avait vu tout à l'heure, une opposition dans les variations de prix, c'est toujours sur des plus petites variations. Donc, dès qu'on a un prix du froment qui augmente très fortement, pas de secret, le reste va suivre. Autre cas de figure, le sarrasin, on a vu, il n'a pas le même cycle. Mauvaise récolte de sarrasin. Donc, les clients du marché qui achètent du sarrasin vont, par le jeu de l'offre et la demande, aussi avoir une augmentation du prix. Si jamais on avait une très mauvaise récolte, ici on a la même chose, les gens qui ont peut-être du sarrasin chez eux n'ont pas assez récolté ou viennent au bout de leur stock, vont venir sur le marché. Donc on va avoir, là parce qu'il y a des masses plus importantes, plus rapidement et en plus grand nombre, une augmentation du prix de sarrasin avec un surclassement éventuel sur l'orge quand il n'y en aura plus, donc une augmentation du prix de l'orge. Ce qui explique que les gens qui mangent les classes, les pauvres, n'ont jamais de chance. Hein. Qu'on ait une mauvaise récolte de froment ou une mauvaise récolte de sarrasin, le résultat pour elle-même, c'est qu'on a une hausse du prix du sarrasin. Alors, le pire des cas, c'est quand les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise récolte à la fois de froment et de sarrasin. Là, on a hausse des prix plus hausse des prix. Ça va faire une hausse importante des prix. Et la seule chose qui peut contrebalancer, c'est effectivement une politique publique avec une importation qui va venir éventuellement réduire un petit peu le prix. Alors, en 1812, par exemple, on va reprendre l'idée du prix maximum. On va mettre un prix maximum sur toutes les denrées. Simplement, le prix maximum pour le sarrasin n'est pas le même entre le département de l'Orne, la Manche, et je crois le Calvados aussi. Ce qui fait que les gens, ça va avoir un effet inverse. Et les préfets vont avoir... On a beaucoup de courriers avec, les ministres et les préfets. C'est que les gens qui vendent du sarrasin vont fuir le marché de Domfront, vont fuir les marchés de l'Orne pour aller le vendre dans la Manche, puisque le prix maximum est supérieur. Donc ça, y a aussi ces jeux-là qui vont intervenir. Alors là, c'est un cas assez particulier. Donc, au fur et à mesure, les préfets vont envoyer des courriers, on va enlever le prix maximum sur le sarrasin. On n'a pas parlé également du rôle des transports qui va impacter aussi le prix. Et puis, on pourrait parler aussi, pour comprendre le mécanisme, des émeutes qui ont tendance, et là, Michel Nassy avait écrit un autre article sur les émeutes en Bretagne. On se rend compte que les émeutes ont tendance à se faire en début d'augmentation de prix. Et que quand on est dans une hausse très importante, les gens qui meurent de faim ne vont plus manifester, ils ont autre chose en tête. Donc on peut aussi, grâce aux émeutes, comprendre un petit peu la logique et de tous ces événements. Alors certainement d'autres facteurs, d'autres variables entrent en jeu, mais je vais me dépêcher parce que peut-être plus beaucoup de temps. Alors autre chose, alors ça n'a pas encore été réalisé mais qui sera intéressant, c'est d'analyser les variations sur les saisons. Et de se poser une simple et seule question, c'est que la récolte du sarrasin qui va se faire vers le mois de septembre-octobre, est-ce qu'elle influence les courbes des autres grains ? Hein, c'est-à-dire que quand on, le grain arrive, tout d'un coup, les masses de sarrasin arrivent, est-ce qu'on a de l'orge, du seigle ou du froment? Est-ce qu'on va voir sur les mercuriales une tendance à la baisse parce que on a un apport sur les marchés? Ou l'inverse, je ne sais pas. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir se poser. Si oui, bah, dans quelles circonstances? Est-ce que c'est en période normale ou seulement en période de crise? Et quel type de crise? Et ainsi de suite. Et puis dans quelle proportion? Essayer de comprendre aussi, encore une fois, les logiques qui vont se faire. Et là, il faut vraiment le faire marché par marché, sur différentes périodes pour comprendre et comparer. Et pas faire des moyennes, essayer de voir, parce que sinon, on lisse tout et on ne comprend plus, le ressenti des gens sur le terrain. C'est-à-dire que les belles courbes de l'histoire économique des années 60-70, elles sont réelles pour comprendre une histoire globale, mais elles ne reflètent pas toujours les problèmes des petites gens, qui sera justement le thème qu'on va aborder bientôt, les ressentis des petites gens localement, et qui n'est pas le même, déjà on peut voir qu'il n'est pas forcément le même dans cette région de la Basse-Normandie, alors bon, à plus forte échelle, après sur un territoire plus grand. Alors l'autoconsommation et la préférence du sarrasin, elle se voit aussi à travers quelques exemples qualitatifs très rapidement. Alors c'est ce que je dis, ça c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ils ont eu beaucoup de froment au lieu de sarrasin parce que les gens préféraient donner le sarrasin parce qu'ils y étaient extrêmement attachés. Donc on voit bien que les gens, il y a aussi, c'est pas forcément économique, c'est que il y a une acculturation, une accoutumance au sarrasin, il est là depuis bien longtemps. On aime ça, on aime manger son sarrasin. Alors, c'est ce que nous montre le Takounou dans sa thèse sur le commerce des grains et des subsistances en Bretagne pour le XVIIIe siècle. Toute sa démonstration, ou une partie de sa démonstration, est d'expliquer simplement, il se pose la question, pourquoi la Bretagne exporte autant de grains? Est-ce que c'est parce qu'il y a un meilleur terroir, est-ce qu'il y a une meilleure agriculture? Il se pose toutes ces questions et à la fin, il répond simplement, ben non, c'est aussi qu'il y a un système de polyculture, c'est bien l'enjeu. Là, on parle du sarrasin, mais l'enjeu, il est derrière. C'est ça, c'est l'analyse entre un système de monoculture, un système de polyculture. Et les Bretons ont, entre autres, le sarrasin. Ils préfèrent manger le sarrasin et l'avoine, d'ailleurs, et garder le froment pour tout ce qui est économique, c'est-à-dire vendre sur le marché, payer les rentes, et ainsi de suite, payer tout ce qui est d'un point de vue économique. Et on a la même chose à Avranches ici, plus ou moins, là c'est aussi un passage, hein, sur l'état d'agriculture d'élection d'Avranches en 1764. On dit cette région, donc, cette élection exporte dans ces deux provinces des froments qu'elle ne consomme point parce que les habitants de la campagne ne mangent que du seigle et surtout beaucoup de sarrasin. Voilà, on a la même chose, ce que le Takounou nous montre en Bretagne, on a la même chose, ici on a un passage vraiment d'époque qui nous montre la même chose. Alors, très rapidement, parce que je ne pouvais pas ne pas vous parler de meules, mais l'autoconsommation, elle se voit aussi à travers le mobilier. Alors, c'est le cas de la meunerie manuelle, qu'on retrouve dans les inventaires après décès en très grand nombre, surtout pour le 18e, mais c'est le cas aussi, par exemple, d'ustensiles pour faire cuire les crêpes, les galettes, qu'on peut appeler tuiles dans la Manche, qu'on va appeler poêle à crêpes dans le Finistère, simplement, ou galettière, galettoire, dans le reste de la Bretagne. Et puis, on a les sacs à farine, on a les tamis, on a tout plein d'ustensiles qui permettent de saisir aussi l'histoire de l'alimentation chez les gens dans les campagnes. Alors, quelques exemples, 19e, mais je ne vais pas... c'était juste pour montrer quelques photos. Alors, voilà. Alors, le fameux cycle, il est important parce que quand vous avez... 1709, vous avez une crise qui va se réaliser surtout sur l'hiver. Elle ne va pas du tout impacter... Alors, ça va ravager le froment, on le sait. On va réussir à mettre de l'orge, quand on en a, ou de l'avoine, mais on n'en a pas toujours. Et dans les régions où on a du sarrasin, s'il nous reste des semences de 1708, s'il nous en reste, eh ben, on va en semer beaucoup. Donc là, l'intérêt du sarrasin par rapport à son cycle, c'est qu'il est moins influencé par certains phénomènes météorologiques, surtout ceux d'hiver. Par contre, attention, c'est que son rendement est plus aléatoire, c'est-à-dire qu'il est plus sensible. Le rendement est toujours, et normalement, quand il y a une bonne récolte, beaucoup plus haut que le seigle et le froment, ça ne fait aucun doute. Par contre, dès qu'il y a une petite gelée, dès qu'il y a une sécheresse, dès qu'il y a un vent chaud, et ainsi de suite, eh ben, très rapidement, c'est une plante qui est assez sensible. Donc, ça reste aléatoire. Ici, un test avec 3 années où les rendements chutent pour l'ensemble des départements normands. Et j'ai repris les relevés pluviométriques qu'on retrouve ici. Et on se rend compte pour que les 3 années, ici, on a la moyenne de la pluviométrie. Et ces 3 années-là où il y a une chute, la pluviométrie en juillet est quasiment nulle, en tout cas, est absente. Et bien oui, comme on plante en juin, et ben, il a besoin d'eau pour pousser à ce moment-là. Si jamais vous avez un manque d'eau, et là on le retrouve après dans les textes de manière qualitative, si jamais on a un manque d'eau sur cette saison-là, on a une mauvaise saison, ce qui peut expliquer que quand on a un manque de pluie sur une année, à N plus 1, on se retrouve effectivement avec des hausses de prix sur les marchés, et alors que dans les années... Bon, c'est un essai, il va falloir aller plus loin encore une fois. On retrouve l'inverse. Voilà. Alors, cette carte, l'auteur est ici présent, Pierre Brunet. C'est vous qui avez fait cette carte en Atlas de Normandie. C'est sur l'herbage. Et tout ça pour dire que le sarrasin n'est pas la seule denrée, on l'a vu, mais aussi, il y a en Normandie un phénomène qui est celui de l'herbage. Alors, si pour le XVIIe siècle, et le XVIIIe siècle, ça va pas jouer vraiment d'importance. Par contre, pour le XIXe siècle, l'expansion de l'herbage va jouer aussi un rôle. Là, simplement, rapidement avec le Don Fronté, on voit que en 1800, le sarrasin était ici et le froment ici. Et au fur et à mesure, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas des données qui sont régulières, ce sont des sondages, hein, les sources ne donnent pas des données régulières, mais c'est à partir des années, entre un recensement 1855 et 1858, qu'on voit que le froment passe au-dessus, dans les terres emblavées, effectivement, dans les surfaces, par rapport au sarrasin pour le Don Fronté. Ici, malheureusement, on a des recensements pour le Mortenay 1816, 26, 29, et je suis obligé de revenir à l'enquête de 1852 pour voir la différence. Mais jusqu'en 1829, le sarrasin est donc à 14 000 hectares, alors que le froment est à 4 000. Il faut attendre donc les années 52. Malheureusement, ça se fait quelque part entre 30 et 52, un petit peu comme ici, pour voir le changement s'opérer. Mais il faut prendre en considération aussi, et là je ne l'ai pas fait, l'herbage qui va prendre sa place. Voilà. Alors, en conclusion... le sarrasin joue-t-il un rôle dans les crises de subsistance dans l'Ouest? Alors, un rôle, oui, c'est pas bien dur, je pense qu'on s'en doutait déjà. Est-il le seul? J'en doute réellement. Donc oui, mais dans une certaine mesure seulement. On a bien vu, par exemple, que l'orge avait sa place et que certaines politiques publiques apportaient aussi à l'atténuation des crises. Et ici, ce qui est important, c'est vraiment la dualité entre monoculture et polyculture. C'est la diversification de l'alimentation populaire qui va permettre l'atténuation des crises. Je vous disais que, par exemple, il y a aussi l'importation. Donc là, avec les politiques publiques, je reviens là-dessus. 1812, quand on prend les mercuriales des quantités de blé vendues sur Avranches, 1812 est la seule année où on tombe à zéro ou presque zéro quantité de grains vendus sur plusieurs mois consécutifs, même le froment. Toutes les autres, la crise de 1816 et ainsi de suite, 51, 52, on a des crises, mais qui vont être plutôt économiques. Ils vont avoir forcément un impact sur les subsistances, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avant, c'était un manque de subsistance qui faisait qu'on n'allait pas avoir à manger. Là, ça va être un manque d'argent, une crise économique qui va faire qu'on ne peut plus aller acheter des subsistances. Mais à première vue, sur ces marchés-là, après 1812, on a toujours du grain qui est présent. Donc, c'est un autre type de crise. Et ça, Nadine Villiers l'avait mis aussi bien en avant dans différents articles sur les crises du 19e. Donc là, ce qui est important... Sur les crises du 18e, c'est bien la polyculture, c'est bien un système qui varie. Et c'est comment on va passer d'une denrée à l'autre et les logiques de consommation, encore une fois. Je pense que tout ça, en fait, j'ai déjà répondu. Et donc, voilà. Alors, Tout ça, pour le moment, ce sont des essais, ce sont des tests. Il va falloir rentrer, j'ai d'autres mercuriales, il faut que je rentre tout ça à la moulinette dans Excel, qu'on fasse des comparaisons, mais aussi avec les mercuriales bretonnes et aussi les sources bretonnes qui ont été récupérées et qui ne demandent maintenant qu'à être étudiées. Voilà.